Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Alors c'est un texte, comme je l'ai précisé, qui fait référence malgré tout, eh bien, à cet événement qui pour beaucoup malheureusement ne reste qu'un événement traditionnel, mais lorsque nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu, nous y trouvons un autre sens, le vrai sens, c'est-à-dire eh bien, le don de Dieu fait aux hommes. Et comme Jésus pourra le dire à une femme qu'il a rencontrée un jour à Samarie, « Si tu connaissais le don de Dieu, c'est un don extraordinaire, un don merveilleux, un don qui ne peut pas être nommé tellement il est merveilleux. » Voilà donc Philippiens, je vous ai dit, chapitre 2, à partir du verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. » Il n'a point regardé son égalité ou être égal avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un simple homme ou un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà, que Dieu nous bénisse à travers cette méditation dans laquelle nous allons là porter nos regards, porter notre pensée. Lorsque nous ouvrons la Bible, nous touchons, nous approchons, nous sommes sous l'impression de la puissance et de la grandeur de Dieu dans l'histoire que nous lisons. Et c'est vrai que les termes sont très forts, puisque la Bible commence par ce mot: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il n'y a rien de plus puissant que des mots semblables. Dieu créa le ciel et la terre. Nous qui sommes des hommes de la terre, quand on voit ce qu'est notre planète et ce qu'il y a tout autour, l'infini, le firmament, on se dit, mais quelle puissance et quelle grandeur. Alors bien sûr, on peut le dire que si on a quelque part au fond du cœur cette dimension de foi. Hélas, beaucoup ne le disent pas. On pourrait parler, si vous voulez, de l'incommensurable pouvoir de Dieu sur l'univers. Puisque la Bible nous en parle, elle nous en parle savamment, de cet infiniment petit et de cet infiniment grand. Et nous sommes là à considérer ces choses et nous disons, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est que tout cela? Il y a un cantique très classique quand nous chantons: mon Dieu, quand mon cœur se considère, tout l'univers créé en ton pouvoir, vous connaissez naturellement. Et c'est vrai qu'il reporte bien ce que nous allons réfléchir ce matin. Et Jésus, comme pour marquer le fait de la grandeur et du pouvoir de Dieu, dira en conclusion de l'évangile de Matthieu, il dira, mais tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, nous approchons déjà, en effet, cette grande question. La première peur de l'homme qui se situe dans Genèse chapitre 3, qui est formulée de la bouche même de Dieu, s'adressant au premier homme, où es-tu et où te caches-tu? La réaction d'Adam a été la réaction d'un être, la peur d'un être devant un Dieu infini. Prise de conscience devant cette parole et cet appel. Et c'est vrai que la théologie a essayé, a tenté de définir avec des mots ce qu'est Dieu. omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout, omniprésent, il est partout, et omnipotent, il est celui qui peut tout. Et c'est vrai que lorsque nous regardons sous cet angle à découvrir et à chercher à découvrir Dieu, les êtres que nous sommes, les hommes que nous sommes, eh bien nous sommes frappés d'éblouissement, de majesté, de magnificence. On en a un petit aperçu lorsque nous voyons Jésus monter sur la très haute montagne, ce qu'on a appelé là le récit de la transfiguration. Mais ce n'est qu'un petit coin du voile qui se lève, mais si peu. Nous voyons aussi un homme confondu et terrassé, tombé de son cheval, Saul de Tarse, sur le chemin de Damas, entendre une voix et une lumière resplendissante, eh bien l'environnant. Et puis il y a aussi un fait qu'il ne faut surtout pas oublier, de la grandeur et de la puissance de Dieu, c'est sa sainteté. C'est Ésaïe qui le dira. Moi, je suis un homme aux lèvres impures. Retire-toi de moi, Seigneur. Donc tout ça, c'est un ensemble pour nous parler. C'est une vue très rapide pour nous parler de cette puissance et de cette grandeur de Dieu dans l'histoire. Les hommes, ayant ce sentiment à l'intérieur d'eux-mêmes, eh bien, ont pris d'infinies précautions pour s'approcher de Dieu. Et cela nous est rapporté d'une manière assez fréquente dans l'Ancien Testament. Au Sinaï, ôte tes chaussures, parce que ce lieu sur lequel tu marches est saint. Au désert, également dans le tabernacle, il y avait des séparations. D'abord le parvis, ensuite le lieu saint, le lieu très saint. Il y avait, nous pourrions dire, des filtres pour eh bien, que les choses se fassent avec toujours une certaine distance. Il y avait le grand sacrificateur, il y avait les sacrificateurs, il y avait les lévites. On parle de quoi alors? On est en train de parler de sacré. Parce que le sacré, eh bien, il nous met devant, finalement, encore une fois de plus, devant la puissance et la grandeur de Dieu. Et il faut bien reconnaître que Dieu a fait toujours trembler l'homme mortel. C'est le psaume 90 qui nous le dit. Mais Seigneur, qui es-tu? Nous ne sommes que poussière. Tu nous jettes dans la poussière. Conception d'hier des Juifs et de tout le christianisme formaliste. Je ne considère pas que nous sommes dans une église au christianisme formaliste. Nous voulons être une église renouvelée par la vie et l'onction du Saint-Esprit. Mais une chose que je dis, c'est que dans le christianisme formalisme, on ne s'approche pas de Dieu comme ça. Il nous a été présenté comme un Dieu intouchable, inaccessible, souvent incompréhensible, et ce sont les questions qui surgissent de l'Évangile même. Quand il est question de la Samaritaine, mais où faut-il aller adorer, Seigneur? Jésus va donner les clés de la proximité, ni ici, ni là, mais... Et puis, à l'Istre, où ces hommes païens vont essayer de dédier un culte à Paul et à son ami Barnabas. Ça, c'est la réaction humaine. Ils vont les traîner dans le temple, à Athènes. À Athènes, pour ne pas oublier aucun dieu, on va même faire un autel à un dieu inconnu. Parce que toute cette approche de Dieu religieuse, cette conception humaine de Dieu, est faite dans le cérémoniel, dans la solennité. Mais ce n'est pas le Dieu que nous connaissons et ce n'est pas le Dieu que les hommes ont besoin aujourd'hui. Dans l'Évangile, Dieu s'est humilié pour se faire comprendre. Dieu s'est humilié pour se faire entendre. Et je dirais encore plus, Dieu s'est humilié pour se faire aimer des hommes. Aimer des hommes. C'est ce qu'on appelle, dans un terme français, mais c'est ce qu'on appelle les condescendances de Dieu. S'approcher, descendre, avec. Et croyez bien que si Noël a un sens, c'est que véritablement notre pensée, notre cœur, nos sentiments, c'est parce que Jésus est descendu. Parce que Dieu est descendu. Jusqu'alors, Dieu parle aux hommes. Il parle à travers des hommes, mais certains choisis. Abraham, Moïse, les prophètes. Et il s'est aussi très souvent manifesté du haut des cieux, et par l'intermédiaire de créatures célestes, angéliques. Mais jamais rien n'a pu égaler lorsque il est venu sous forme humaine Dieu est venu sous forme humaine, c'est ce qu'on appelle l'incarnation, pour vivre parmi, au milieu, avec et comme les hommes. Et quand nous lisons cette dernière parole de l'évangile de Matthieu, « Mais je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde », ça veut dire ce que ça veut dire. Dieu s'est dépouillé. Dieu s'est dépouillé pour descendre. Depuis lors, depuis ce jour à Bethléem, depuis ces temps évangéliques, tout le Nouveau Testament invite à s'approcher librement de Dieu. Librement de Dieu. Plus besoin de monter au temple, plus besoin d'aller dans un endroit particulier, plus besoin de ceci ou de cela. Et les textes de l'Évangile nous le prouvent très très souvent. Écoutez quelques textes. Montre-nous le Père. C'est extraordinaire comme question. Jésus, montre-nous le Père. Des Grecs qui venaient adorer à Jérusalem disent « Mais nous voulons voir Jésus ». Tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. On ne touche pas Dieu, mais tous ceux qui venaient, eh bien, voulaient au moins avoir un contact avec Christ. Toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et il les guérissait tous. C'est un aspect des choses, de la divinité, de Dieu venu sur terre, pour les souffrants, pour les malheureux, pour les infortunés de la vie. Jamais Dieu ne s'était laissé approcher de la sorte dans l'Ancien Testament. Et l'Évangile s'ouvre à travers, véritablement, eh bien, une communion, une relation, une intensité, une proximité avec celui qui s'est incarné et qui est venu parmi les hommes. Écoutez ce beau texte dans Éphésiens chapitre 3, verset 12 que je restitue. Il nous est dit « En Christ, en lui, nous avons par la foi la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. » Mes frères et mes sœurs, il y a peut-être quelque part une nouvelle dimension dont nous avons besoin de rentrer, c'est de ne plus avoir peur de Dieu. C'est de ne plus craindre. C'est de ne plus être terrorisé. Et de pouvoir vous approcher, de pouvoir venir dans sa communion. Nous l'avons chanté tout à l'heure, Dieu est là. Et tu ne seras plus le même. Laisse-toi toucher et tu ne seras plus le même. Nous avons par la foi la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. C'est ce que nous avons découvert au moment où nous nous sommes convertis. On nous avait toujours exposé un Dieu qui était si loin, si impénétrable. Et là, on a senti qu'il y avait une chaleur, il y avait quelque chose. Et cette présence de Dieu, elle passe aussi par vous, par moi. Eh oui. L'incarnation de Dieu est le miracle le plus choquant et inattendu que Dieu n'ait jamais inventé. Jusqu'ici, la mythologie nous avait fait venir des demi-dieux ou des faux-dieux, enfin des faux-dieux en tous les cas, mais descendant parmi les hommes, faisant des choses immorales. Mais jamais de la manière dont la Bible et nous, l'Évangile nous présente. Dieu se fait homme. Homme. Le Créateur se fait créature. L'incréé va rentrer dans la dimension, finalement, de ce que nous sommes, nous, des êtres créés. Mais pour un message, pour une mission, pour un rôle tout à fait particulier. Dieu aurait pu faire les choses du haut du ciel. Il aurait pu déléguer des anges, il aurait pu déléguer toutes sortes de moyens. Non. Le mystère, ce n'est pas un mystère d'abord, mais la grandeur, la beauté, la splendeur, la magnificence du plan de Dieu, c'est de devenir au milieu de nous. Je crois que c'est Aldrin, le cosmonaute, lorsqu'il a marché sur la Lune, et il a répondu, me semble-t-il, que la plus grande chose qui soit, ce n'est pas qu'un homme ait marché sur la Lune, c'est que Dieu ait marché sur la Terre et qu'il soit venu pour nous sauver. Ça, c'est le mystère, mais c'est aussi notre révélation. Alors Dieu va partir en guerre contre les peurs viscérales de l'homme à l'égard de lui-même Et nous allons le découvrir de la manière dont il s'y prend. L'homme se cache, et vous savez pourquoi il se cache? Parce qu'il a toujours cette hantise, cette crainte, cette peur ancestrale du premier péché. Où es-tu? Où te caches-tu? Peur de Dieu, peur de la voix de Dieu, peur du jugement de Dieu, peur de la condamnation de Dieu. Et quand Dieu a appelé Adam, ce n'était pas pour lui faire peur, c'était pour lui dire « Dis-moi ce que tu as fait, pour qu'ensuite, eh bien, je puisse encore t'aider, si tu le veux. » Un des termes qui revient très souvent dans l'Évangile, dans la bouche même de Jésus, voire même la bouche des anges, c'est « ne crains pas ». Ne crains pas. Jésus dira « n'ayez pas peur à ses disciples ». Il ajoutera dans ce beau chapitre 14, verset 1er de Jean, « que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne s'alarme point, croyez en Dieu et croyez en moi ». C'est rassurant cela. On a besoin de s'imprégner de cela. Dieu n'est pas un Dieu de rejet, c'est un Dieu qui s'approche. C'est un Dieu qui s'approche pour que nous puissions nous approcher de lui. Ne te trouble pas. Et Dieu nous dit cela constamment. Il le dit aux hommes. Il le dit aussi à nous-mêmes aujourd'hui. Comme s'il voulait, par ses paroles, que nous exorcisions cette crainte de toujours, cette peur de Dieu qui est au fond de nous-mêmes. C'est un poison, la peur. C'est un véritable poison. C'est un poison destructeur. Ça nous anéantit, la peur. Ça nous prive de tellement de choses. Cette peur de Dieu. Il faut dire qu'il y a la culture qui est contre nous. Il y a les traditions qui sont contre nous. Il y a l'enseignement religieux qui est contre nous. Il y a tellement de choses. C'est qu'il est vrai que Dieu a souvent été entrevu comme un Dieu terrible, un Dieu de vengeance, un Dieu justicier, un Dieu qui punit, un Dieu qui exige la perfection. Les premières pages de la Bible nous laissent souvent sous cette impression. Béni jusqu'à la millième génération, mais alors maudit jusqu'à la quatrième. Enfin, vous voyez la proportion, ça quand même laisse quand même une marge quand même très large. Mais néanmoins, c'est la notion. Et on est resté beaucoup plus sur le négatif que sur le positif. Et on fonctionne beaucoup plus avec notre négativité qu'avec notre positivité. On fonctionne beaucoup plus avec nos craintes et avec nos peurs qu'avec notre foi et notre confiance. Et surtout notre amour, comme on l'a chanté tout à l'heure. Seigneur Jésus, je t'aime. Quand on dit je t'aime à quelqu'un, c'est qu'on a confiance. Autrement, on ne lui dit pas. Toutes les manifestations surnaturelles de jadis, que ce soit les gens, les anges, les voix célestes, les tonnerres, les éclairs, les tourbillons, les déluges d'eau et de feu, l'homme se retrouvait toujours le nez dans la poussière, frappé d'épouvante et de frayeur. Mais c'est plus comme ça que Dieu parle aujourd'hui. Il ne parle plus de cette manière. Ça, c'est l'Ancien Testament. Je dirais que le naturel que nous sommes, le naturel en nous, a du mal à surmonter le surnaturel. Alors quand Dieu parle d'une manière tonitruante, on se met, finalement, on s'enterre. On se dit, mais c'est pas possible. L'homme est terrorisé. S'il y en a un qui devrait lui faire peur, c'est plutôt le diable. Mais avec le diable, il joue avec. Et le diable joue avec l'homme aussi. C'est pas grave. Tu sais, tout ça, ça fait partie de... C'est normal. On devrait avoir peur du péché, on devrait avoir peur du mal, et on devrait avoir peur du malin, et jamais peur de Dieu. Depuis la venue de Jésus... Je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, et je voudrais le dire ce matin particulièrement, c'est qu'il y a du nouveau. Ouais. Nous sommes dans une société où nous sommes toujours très croustillants de nouveau. Alors moi, je voudrais vous dire, et le rappeler parce que vous le savez déjà, mais qu'il y a du nouveau dans la terre, sur la terre. Qu'il y a du nouveau dans le monde. Qu'il y a du nouveau dans l'Église. Et ce nouveau, c'est que Dieu ne veut plus effrayer sa créature. Il ne veut plus nous faire peur. Et il y a longtemps qu'il a abandonné cette pensée. Alors, mais comment s'y prend-il pour que l'homme n'ait pas peur? C'est étonnant. Et c'est là où nous touchons à la signification de Noël. C'est étonnant. C'est alors qu'à Zacharie, le prophète, ou le sacrificateur, le père de Jean-Baptiste, je veux dire. C'est aussi à Marie, la mère de Jésus, à Joseph. Ensuite, au berger. Dieu va déléguer un ange. un ange, une créature céleste qui va les visiter. Et cette créature est un ambassadeur du royaume des cieux qui vient leur annoncer que désormais Dieu va apparaître sous une forme qui ne leur fera jamais plus peur. Et il pourra leur dire aux bergers, vous pouvez y aller, ne craignez plus. C'est le texte de Luc. Ne craignez point, ne craignez plus. Et tout a commencé par ceci dans cette belle histoire. Une étable. Une crèche. Dedans, il y avait un bébé. Et quoi de moins inquiétant qu'un nouveau-né, dépendant et impuissant? On n'a pas peur d'un bébé? Non. C'est un petit homme en devenir, comme on l'a chanté la semaine dernière. Petit être en devenir. Hein. On n'a pas peur. Les hommes nous font peur. Mais quand vous voyez un petit bout de... grand comme ça, vous n'avez pas, au contraire, ça suscite de la joie, ça suscite, on dit, mais c'est merveilleux, c'est formidable, c'est la vie, c'est l'avenir. C'est la vie. Alors Dieu a dit, voilà, puisque vous avez si peur, moi je vous montrerai ce que vous ne devez pas craindre, parce que c'est ce qui réjouit toujours le cœur des hommes, un bébé, un enfant. Et bien regardez, voilà. Et c'est comme ça qu'il s'y est pris. Vous avez peur? Vous avez peur de cela? Et en leur disant ça, devant les yeux des mages, devant les yeux de ses parents, devant les yeux de tous ceux qui étaient là, Dieu était là, sous les yeux des hommes. Ouais. Ah, oh, c'est vrai que ça manquait un peu de décor. Hein. C'est nous qui avons fait le folklore après. Hein. Ça manquait un peu de confort. Mais Dieu était là, aux yeux des hommes. Dieu a enfin trouvé le moyen de s'approcher de l'humanité sans que celle-ci le redoute. Dieu est descendu des cieux à Bethléem. Il est descendu du ciel. Il est descendu de ses palais d'ivoire. Il a décroché de cet espace de sainteté, de pureté, de lumière pour venir au milieu des hommes. Dieu homme qui naît, qui grandit, qui vit, qui souffre, qui travaille comme tout à chacun. C'est pas la preuve que quand même Dieu s'est approché de nous pour pas nous effrayer? Pour pas nous mettre dans un état de psychose. Ouais. Parce que ce Dieu-là ne pouvait pas être plus près, plus présent. Alors Jésus a incarné Dieu. Son message sublime a été rassurant. Il a été apaisant. Croyez en moi. Croyez en Dieu, celui qui m'a vu, dira Jésus dans l'évangile de Jean. Écoutez bien, elle est merveilleuse cette parole. Celui qui m'a vu a vu le Père. Vous rendez compte, quand nous voyons Jésus, quand nous communions avec Jésus, quand nous prions Jésus, quand nous adorons Jésus, nous sommes en communion avec le Père. Il a vu le Père et il ajoute encore, mais ne vous inquiétez de rien, venez à moi. Croyez que je suis dans le Père. Mais c'est un message extraordinaire et formidable, frères et sœurs. Merveilleux. C'est simple hein, ce que je dis ce matin, mais c'est pourtant la réalité de ce que nous avons besoin d'être nourris. Parce que ce sont des vérités fondamentales de l'Évangile sur lesquelles notre cœur a besoin de se reposer, de se retremper, de se vivifier, de s'épanouir. Mais vivre avec les hommes, Dieu prend de grands risques. Hein. Parce qu'on paraît inoffensif comme ça, on paraît bien gentil. Hein. C'est vrai, on a de bonnes mines. Enfin. Mais Dieu prend de grands risques de vivre et de descendre parmi les hommes. Parce que vous connaissez l'histoire, hein, comment ça s'est terminé. Il prend de grands risques. Mais est-ce qu'on peut dire que Dieu prend des risques? Il le sait tout ça. Il le sait et il le fait. Il le sait et il continue à le faire. Parce que la barrière de la crainte divine est abattue depuis que Jésus est venu. Dieu en Jésus se rend vulnérable. Il se livre à la merci de la nature pécheresse des hommes. Sera-t-il, ça c'est les questions que Dieu se pose, sera-t-il connu ou méconnu? Qui a cru à la prédication? Qui a cru à la parole qui a été annoncée? Ça c'est déjà Isaïe qui parle dans le fond des temps et qui annonce déjà. Mais sera-t-il aimé ou haï? Jésus, en venant sur la terre. L'homme en profite pour le critiquer, pour l'injurier, pour le molester, et il en profite surtout pour le crucifier. Mais Dieu savait tout ça. Il savait tout ça. La terre n'a plus peur de Dieu. On le voit dans notre société de rébellion et de révolte, de défis à tous les niveaux, même si ce n'est pas en direct contre Dieu, mais c'est en direct avec, en tous les cas, les autorités qui représentent Dieu. C'est en direct avec toutes les institutions qui sont là normalement pour tenir la société. On se moque de tout. On ne respecte plus rien. Alors, quelque part, par voie de conséquence, eh bien, la terre n'a plus peur de Dieu. Toutes ses rancœurs et ses révoltes se concentrent sur Jésus et il devient le bouc émissaire. Et là, nous avons une projection vers Pâques. Celui que l'on va égorger, celui que l'on va offrir en sacrifice, parce qu'on ne veut plus le voir, parce qu'il nous parle de Dieu, il nous donne la vérité de Dieu, il nous parle de la justice de Dieu, il nous parle du ciel. Et nous, on veut bien aller au ciel, mais on aime bien rester sur terre à faire ce qui nous intéresse et faire tout ce qu'il y a d'ignoble et d'immonde. On dit, Seigneur, le ciel, oui, mais laisse-nous quand même sur la terre. Alors en voulant rester sur la terre, on finira pas être sur la terre, on ira sous la terre. Alors que Dieu nous propose d'aller au ciel, dans le ciel, dans sa présence, et de pouvoir vivre éternellement dans cet univers qui sera celui de l'amour, de la lumière, de la justice, de l'équité, de la grâce. Hey, ça c'est le monde des hommes, le bouc émissaire, auquel on fait payer le prix de la folie humaine, parce qu'ils ont perdu la tête, hein, à Golgotha. Ils racontent n'importe quoi. Le mensonge est quelque chose, mais qui est monnaie courante. On invente des choses sur le compte de Jésus. Et là, on va dire, mais qu'il soit crucifié au moment où on se propose de le relâcher. Non, 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 non. Nous préférons que tu relâches une crapule qui s'appelle Barabbas, mais celui-ci, on veut véritablement sa peau. On veut qu'il meure, on veut qu'il disparaisse, et pourtant, je reprendrai les paroles de Pilate, mais qu'a-t-il fait de mal ? Il a guéri les malades, il a ouvert les yeux des aveugles, il a fait marcher les paralytiques, il a changé l'eau en vin, il a multiplié les pains, il a ceci, cela, etc. Dieu au milieu des hommes qui fait des choses extraordinaires. Et on dit non, on n'en veut pas. On n'en veut pas. À tous les crimes et du sang versé, l'homme ajoutera, sans même s'en rendre compte, l'acte le plus ignoble de mettre Dieu à mort. Et ils l'ont tué, ce qui a fait dire peut-être aux philosophes existentialistes, mais Dieu est mort. Mais non, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il est venu précisément pour naître, et en naissant, il est venu pour mourir, mais pas pour lui, mais pour nous. Pour que nous comprenions que la mort a été vaincue, et que celui qu'on avait mis à mort, il est ressuscité. Alors on le rejette. Quand on le voit arriver, on le moleste, on l'écrase. Et puis, somme toute, en se frottant les mains, parce que c'est l'humanité qui est derrière tout cela, en se frottant les mains, en disant maintenant, eh bien, on le cloue sur une croix et c'est notre victoire. Ils ne savent pas que finalement, c'est le triomphe de Dieu à travers cela. Mais ça a commencé à Bethléem. Tout a commencé là. Dans une petite parabole qui passe pratiquement inaperçu, Jésus dénoncera l'inconstance des hommes face au plan divin de les sauver. Jésus va dire à ses contemporains, il va dire tout simplement, écoutez, je suis venu au milieu de vous, et nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes, et vous n'avez pas pleuré. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que Dieu s'y est pris de toutes les manières, à travers la manière royale, la voie royale, c'est-à-dire l'évangile Jésus-Christ, qui était véritablement, eh bien, une invitation de bonheur, de joie, de paix, d'allégresse. Et quand on vous a joué de la flûte, vous avez dit « Non, non, ça nous casse les oreilles, on ne veut pas entendre cela. » Je vous ai envoyé, Dieu a envoyé un autre qui était avant moi, mais qui avait un message qui était semblable au mien, mais dans la forme, il était tout différent, parce que les hommes, il y en a toutes les façons. C'était Jean-Baptiste. Lui, il vous a chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré pour vous repentir. Alors que l'on fasse d'une manière ou d'une autre, qu'est-ce que Dieu peut faire avec un monde qui ne veut pas entendre ? C'est désespérant, mais je voudrais vous dire que Dieu ne se désespère pas. C'est nous qui nous désespérons, mais pas lui. L'homme est dérouté et il ne se retrouve le plus et il se dit « Comment faire confiance à quelqu'un qui se dit être Dieu ?» Je parle de Jésus parce que les gens sont en train de penser en ce moment. Hein. Mais vous rendez compte ? Comment puis-je croire, comment puis-je avoir la foi chrétienne en voyant un petit sujet en plâtre dans une crèche ? Quel folklore, mes frères et sœurs ! Quel folklore ! Vous savez ce qu'on devrait mettre dans les maisons ? C'est les Bibles, les évangiles, à profusion. Moi, je ne suis pas contre le reste. Hein. Mais je vous dirais que franchement, ça ne m'intéresse pas. Mais comment faire confiance à quelqu'un qui se dit être Dieu et qui naît dans une mangeoire d'animaux, alors qu'on l'aurait attendu dans un palais ? Est-ce que c'est ça, Dieu ? Est-ce que c'est celui qui va aux noces, à Cana par exemple, et qui fait toutes sortes de choses et qui se mélange avec les gens ? Est-ce que c'est ça, Dieu ? Est-ce que c'est ça, celui qui mange avec des gens de mauvaise vie, des prostituées qui rentrent dans la maison de Lévi ? Est-ce que c'est ça, Dieu ? Est-ce que c'est celui qui est le fils de Joseph et de Marie dans le visage de Nazareth ? Est-ce que c'est ça ? Vous n'allez pas me faire croire que c'est lui, Dieu. Alors Dieu se laisse juger et il se laisse crucifier. Et jusque même au dernier écho, avant de rendre le dernier soupir, par la bouche d'un de ces condamnés qui était à côté de lui, le plus virulent, mais qui était inspiré par celui qui est dans le ciel, inspiration diabolique, satanique, démoniaque, fera dire cette parole, « Si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi, descends de ta croix et sauve-nous. » Si tu es. Condition. Qu'est-ce que ça peut être un Dieu comme ça ? Nous avons résolu le problème par la grâce de Dieu, parce qu'il nous a donné la grâce, la foi et l'intelligence pour le comprendre. Simplement, ça ne vient pas de nous. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un Dieu comme ça ? Aujourd'hui, on lève encore le point où on écrit des ouvrages et on se dit, mais c'est un mystificateur, c'est un imposteur. On dira même, c'est un samaritain de Jésus, on dira, et même, il a un démon. Pourquoi l'écoutez-vous ? Alors, on crée à la folie, on crée au scandale. Mais moi, je cite la parole. Mais Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est merveilleux, cette parole. Mais Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est formidable, merveilleux. Moi, cette parole me suffit. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Enfin, la présence de Dieu au milieu de la race humaine n'impliquait pas seulement la proximité, mais aussi une forme de liberté. Parce que connaître Dieu, vivre avec Dieu, connaître Jésus, ce n'est pas un enfermement, c'est exactement le contraire qui se passe. Alors allez convaincre les gens qui sont autour de nous. Non, ils pensent eux religion, mais moi je ne parle pas à religion. C'est une dimension de liberté. Dieu homme n'est plus limité par l'infini. Le corps physique de Jésus lui a permis d'agir à échelle humaine. Ce Dieu qui a déployé le firmament, les étoiles, les astres, etc., etc., il est infini. Mais il fallait que quelqu'un vienne dans la corporalité. Il fallait que quelqu'un vienne s'occuper des détails, s'occuper des choses les plus petites sur cette terre, nos cœurs, nos âmes, nos pensées, notre péché. Et il fallait que là, eh bien, de ce Dieu infini, il prenne une dimension finie, c'est-à-dire le corps d'un homme, l'incarnation, pour agir à notre échelle, parce que simplement un souffle de Dieu et tout vole en, en éclats. Nous ne sommes rien. Nous croyons être les maîtres et les rois de la terre, mais nous ne sommes rien. Le verdict final de chacune de nos vies est déjà inscrit. Poussière ! Qu'est-ce que nous voulons faire sauter les étoiles ? Et cette échelle humaine, Jésus l'a manifestée d'une manière admirable. Les quatre évangiles sont là pour nous le dire. Guérir, soulager, consoler, pardonner, un geste tantôt, une parole, un regard, des foules, des individus en grand nombre, qu'il nourrit par exemple à la multiplication des pains. Il fait des choses, quelquefois dans les choses les plus secrètes, quand il fait descendre Zachée de son sycomore, et non pas de sa synagogue, ça rappellera des souvenirs à certains, et que là, caché dans ses feuilles, il lui dit, dis donc, tu vois, t'es bien caché, mais je te vois quand même. Ça, c'est le détail. Comprenez ? Rien n'échappe. Il peut s'adresser à n'importe qui, Jésus, à une prostituée, aux grandes dames de tous ceux qui, finalement, sont collés montés, à un aveugle, à une veuve, à un lépreux. Il peut dire tout ce qu'il a sur le cœur, sans, comme dans l'Ancien Testament, quand Dieu parlait, faire voler tout en éclats. Ça passe en douceur. Finalement, comme le semeur dont Jésus se plaît à revêtir l'image, parce que c'est cette image qu'il s'est donnée, comme d'autres d'ailleurs, Dieu en Jésus-Christ est venu ensemencer la terre entière d'une semence de vie et d'espoir, d'espérance. Vous ne croyez pas que Noël, c'est vraiment la fête de l'espérance ? C'est là où il fait le plus noir à l'extérieur et c'est là où il y a le plus de lumière à l'intérieur. Mais sans que des bougies artificielles. Ouais. Et croyez bien que si véritablement dans les temps dans lesquels nous sommes, le monde, la nuit s'apesantit sur notre terre, combien l'évangile et combien Christ qui est dans l'évangile a besoin de briller finalement dans un monde de ténèbres. Certainement. Encore davantage. Alors il est venu ensemencer la terre entière pour dire aux hommes, eh bien n'ayez plus peur, je suis la lumière du monde, je suis votre sauveur. Dire que l'infini est descendu vers le fini, dire que ce qui est petit apparemment, sans éclat et insignifiant, va croître et retourner vers l'infini de Dieu, le terrestre vers le céleste et le mortel vers l'immortel. Et ça c'est extraordinaire aussi. Je répète souvent le mot extraordinaire parce que je crois que ce que nous sommes en train de vivre et de lire et que nous lisons dans la Bible, c'est extraordinaire. Quel défi de ce qui est mort et qui reprend vie. De ce qui est petit et qui devient grand. Que ce qui est voué à la disparition va vivre pour l'éternité. Comme c'est Noël, je vous raconte une histoire. Vous voulez bien ? J'entends pas tellement d'acquiescement, donc je referme, c'est terminé. Alors c'est pour les enfants, mais il y a toujours des surprises dans les histoires. Alors, il était une fois, non on va pas commencer comme ça, un grand roi amoureux, parce que ça peut tomber, on peut être président de la République et roi, et puis tomber amoureux. Hein. Un grand roi amoureux d'une humble servante. Rien ni personne ne pouvait être comparé à la puissance et au prestige de ce roi, du roi de mon histoire. Tous ses sujets tremblaient devant son autorité, sa gloire était connue de partout. Pourtant, ce roi si puissant était tombé amoureux d'une simple jeune fille. Et dans le domaine de l'aristocratie, on appelle ça une roturière. On ne se marie pas avec un roturier ou une roturière. On se marie avec des gens de son rang. Bon, c'est l'introduction. Mais ce roi avait un problème. C'était sa royauté qui était un obstacle pour son amour, pour l'être élu de son cœur. J'espère que vous n'allez pas pleurer. Hein. Retenez vos larmes quand même. Il aurait pu la conduire au palais de force. Ça s'appelle un enlèvement. Mais l'aurait-elle aimé ? Ce n'est pas des choses à faire. Est-ce qu'elle l'aurait aimé du même amour, finalement, eh bien, que lui avait réellement pour elle ? Il aurait pu également la couronner tout de suite. Les demoiselles ne sont pas insensibles aux bijoux et à toutes ces choses. Il aurait pu la couvrir de richesses, lui offrir son royaume. Mais malgré tout cela, est-ce qu'elle l'aurait aimé comme lui, il l'aimait ? Au palais, était-ce la crainte qui la retenait auprès du roi ? De dire, si je me sauve, eh bien, il va me mettre en prison. Mais ça, c'est pas de l'amour. Serait-elle heureuse à ses côtés ? Comment en avoir la preuve? Et pendant des mois et des mois, ce jeune monarque se disait « Mais j'aime cette jeune fille. » Mais comment faire? C'est toute une... Il y a un abîme entre nous et elle. Comment lui prouver que je l'aime? Parce que c'est elle que je veux. Le roi voulait quelqu'un qui l'aime d'égal à égal. Oui, d'égal à égal. Parce que l'amour, hein, c'est pas seigneur et servante. Ou le contraire, si vous voulez. C'est pas ça l'amour. C'est l'amour, c'est d'égal à égal. Hein. On est semblable. Pour qu'un amour fonctionne, en tous les cas. Il voulait qu'elle oublie que lui était roi et qu'elle était une simple roturière. Que fallait-il faire pour combler l'abîme qui les séparait? Seul l'amour peut rendre égal ce qui est inégal. Et ça ne s'achète pas, l'amour. Il n'y a rien à faire. Le roi, pour conquérir le cœur de la jeune fille, a eu une idée. Quand on est amoureux, on en a toujours des idées. Il y en a des bonnes et il y en a des moins bonnes. Il faut bien le dire. Alors il a eu une idée à ce moment-là, pour être compris, pour être accepté, pour être aimé de la jeune fille, le roi décida de descendre à son niveau. Ah, c'est quelque chose, hein. On aime bien monter, mais descendre, il faut dire que le prix de l'amour est très fort quand on descend. Hein. Ça ne vous rappelle pas? Dieu qui descend. Il faut véritablement qu'il soit motivé par un grand amour pour des gens qui ne méritent pas d'être aimés. Hein. C'est Jean 3,16, vous le savez ça. Alors donc, il a décidé de descendre à son niveau. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, ce que nous aurions peut-être fait, il s'est habillé en mendiant. Il s'est approché de la misérable chaumière de cette jeune fille. Il s'est rendu semblable en tout point à un simple homme du peuple. Et ce grand roi, par amour pour celle qu'il aimait, avait réellement pris une nouvelle identité. Une nouvelle identité, et Dieu, en descendant vers nous, a pris une autre identité. C'est toujours la même, mais l'identité des hommes, sauf le péché. Juste, saint, trois fois saint, Jésus. Il a pris une nouvelle identité. Il avait abdiqué son trône pour obtenir la main de celle qu'il aimait. C'est beau? Non. C'est beau? Vous avez compris le sens hein, des choses? Oui, quand même. Non, mais c'est les petits clins d'œil, mais écoutez, c'est un jour de fête, hein. Voilà. Eh bien, c'est ça. Moi, je remets ça un petit peu dans cette trajectoire, dans cette conception, dans cette compréhension des choses. Eh oui. Une dernière citation. Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Merci Seigneur de me dire ça aujourd'hui. Merci de me le rappeler. Merci de me dire que tu es descendu. Merci de ce que tu m'as dit et que tu m'affirmes que tu as quitté tes palais célestes pour venir dans un monde qui ressemble beaucoup plus à l'enfer qu'au ciel. Et pourtant il est venu. Il est venu au milieu de nous. Et ça c'est incommensurable. Je dis, oui, Jésus-Christ qui pour nous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, eh bien, nous fussions enrichis. Ce texte, je termine sur ça, ce texte de Paul dans Philippiens ferait partie, en quelque sorte, dans ces versets 6, 7, 8 et 9, ferait partie d'un des plus vieux cantiques qui n'ait jamais existé dans l'Église chrétienne. Oui, selon les commentateurs. Et moi, je vais vous le lire maintenant. Ce cantique chrétien de l'Église primitive, je vous le lire, et il est en vers. Écoutez bien. Le Christ dès l'origine fut d'essence divine. Un avec le Dieu Saint, il avait sa nature, sa gloire sans mesure, ses attributs divins. Loin de mettre sa joie à trouver une proie, dans son égalité avec le Dieu suprême, il s'abaissa lui-même avec humilité. Le roi de tous les êtres, ici-bas voulut naître, en simple serviteur, esclave volontaire, il a vécu sur terre sans éclat, sans honneur. Homme parmi les hommes, il fut ce que nous sommes, en tout semblable à nous, humble et sans apparence, dans son obéissance, il alla jusqu'au bout. Il humilia son âme jusqu'à la mort infâme d'un criminel en croix, au trône de lumière, il fut par Dieu son Père élevé roi des rois. À lui honneur suprême, couronne, diadème et sceptre tout-puissant, Jésus nom qui surpasse dans le temps et l'espace tous les noms existants. Devant Jésus le Maître, un jour devront paraître hommes, anges, démons, dans les cieux, dans le monde, sous la terre et sous l'onde, tous genoux fléchiront, en maître tous l'acclament, toute bouche proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père, le ciel, l'enfer et la terre exaltent le vainqueur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Parce que tu es notre Sauveur, parce que tu es le Seigneur de notre vie, et nous nous plaisons, Seigneur, véritablement à contempler cette parole qui est la plus belle de toutes les histoires, Seigneur, jamais racontées au monde. Merci, Seigneur, pour Jésus. Merci pour Bethléem. Merci, Seigneur, pour la croix. Merci, Seigneur, pour le tombeau vide. Merci pour la résurrection et merci pour l'ascension. Parce que nous croyons que si tu montes au ciel, c'est que tu nous as déjà préparé une place pour qu'avec toi nous y soyons, Seigneur. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Bénis mes frères et mes sœurs. Fais-leur du bien. Accorde-leur, Seigneur, une pleine et entière bénédiction. Et réjouis-les, Seigneur, de ton Saint-Esprit, de cette paix, de cette joie et de ce bonheur, eh bien, d'avoir Jésus comme Sauveur. Merci, Seigneur. Amen. Amen.